j'avais une question, parce que c'est souvent une question qu'on entend, notamment du corps professoral, c'est mais les programmes sont extrêmement lourds, et donc on n'a pas le temps de les aborder. Donc vous avez parlé des oppositions, des difficultés, est-ce que c'est aussi... une opposition, parce que vous nous avez évoqué trois oppositions,
oui, oui.
Mais j'ai pas entendu cette opposition-là.
Non, non, elle est...
En disant il faut tout traiter,
et on demande plein de choses, on n'a pas le temps. Ben, toute l'idée, en fait, parce qu'on est un peu fourbe, c'est de se dire, on a conscience que c'est très lourd, et du coup, on va vous proposer un outil qui vous permettra de traiter les programmes. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur ça, vous avez dit quatre fondamentaux aujourd'hui, sur la langue, la lecture et l'écriture. On va travailler la question de la construction de la langue, de l'expression orale, de la précision du vocabulaire. Quand vous faites athéisme, on traite athéisme, monothéisme, polythéisme, on va faire la construction des mots avec le préfixe et la racine. Donc, travailler en lien autant que faire se peut, c'est là où on l'a fait assez précisément, de voir dans chacun des programmes où est-ce qu'on peut se relier pour faire en sorte que vous ne fassiez pas quelque chose en plus, mais que par ce biais-là, vous fassiez ça et en même temps le programme en question.
Alors, j'avais deux autres questions. La première question, c'est parce que j'ai cru comprendre que vous étiez assez développé au niveau de la région, Île-de-France, mais est-ce que vous avez... À d'autres endroits. Et ma deuxième question concerne plutôt les programmes. Est-ce que ça ne peut pas être aussi abordé, enfin, je parle d'un enfant, enfin, mon enfant est scolarisé dans une classe hors contrat privée, quasi depuis la maternelle, passe le bac. Donc ça veut dire que et en fait ils abordent ce biais-là par la philosophie, par l'enseignement de la philosophie dès la maternelle en fait dans son école je trouve que ça peut être aussi un biais est-ce que vous l'avez imaginé ou pas du tout vous, parce que là c'est très concret parce qu'on est en élémentaire mais enfin on peut être aussi théorique vous l'avez évoqué au début de votre propos au niveau des plus petits de classe et en fait l'enseignement de la philosophie enfin, comme moi j'en ai fait l'expérience par l'enseignement qui était délivré à des enfants très jeunes ils trouvent ça génial
alors
ils sont très très bons en philo hein,
allez, et puis les petits
et en terminale je sais même pas la peine de discuter avec eux parce qu'on est complètement largués pour génial. Ces enfants qui ont fait de la philo depuis la maternelle.
Alors, pour prendre les questions dans l'ordre, sur la question du déploiement national, on est beaucoup en Île-de-France. Après, on couvre le territoire sur des formes différentes. Formation PJJ, ça va être aussi dans d'autres endroits. Les formations en SP, c'est dans d'autres endroits. L'enseignement catholique, il y a une congrégation qui a fait appel à nous, qui est plutôt dans le sud-est. Donc, il y a des choses dans les endroits. Après, aujourd'hui, on va pas chercher, nous on répond aux demandes, avec toujours cet enjeu de se dire notre objectif c'est celui où on continue ce qu'on fait en répondant, mais on a un enjeu de politique publique. Enfin, moi si je rêve, on ferme enquête, parce que c'est dans les programmes, c'est une évidence, les enseignants ont quoi le faire et du coup on va...
Il y a des outils déjà.
Des outils,
non, vous êtes, enfin, c'est sur un sujet complètement différent que Xavier connaît bien, c'est, vous êtes exactement enfin, sur des sujets très très différents, sur... territoire zéro chômage de longue durée. Vous visez un territoire et c'est politique, c'est institutionnel. On connaît bien Xavier et moi, mais vous êtes après. C'est
mais là, en fait, le travail à Sartrouville, qu'on cherche, au-delà de l'étude d'impact, on cherche à le modéliser aussi, c'est regarder par les pouvoirs publics, notamment dans le cadre des plans mercredi et peut-être des cités éducatives, de voir comment est-ce qu'on peut travailler sur un territoire. Alors après, il y a des spécificités à chaque territoire, mais de voir comment, où est-ce que ça prend, où est-ce que ça bloque, qu'est-ce qu'on a activé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir travailler sur des territoires derrière. Donc, avec, à mon avis, une approche territoriale qui est... Il y a la question, c'est la fameuse stratégie du sandwich. Il faut un discours politique et puis après, c'est propre au territoire. Donc, il faut pouvoir avoir les deux pour pouvoir avancer. Sur la philo, oui, on se pose la question parce qu'il y a des choses où on n'est pas très loin quand même. Quand vous êtes sur croire savoir et la différenciation de croire savoir, on est sur de la réflexion philosophique. Je pense qu'on... Alors après, là, je m'avance un peu parce qu'on a traîné des cas de fer jusqu'à maintenant pour les plus petits, comme pour les ados. On va finir par y aller parce qu'on a des gens qui nous demandent et compagnie. Et je pense que ça... Je vois justement une association qui travaille sur des ateliers philo... la semaine prochaine. Et en me disant, ça sera peut-être un... Parce que pour les petits, ce qui fonctionne, c'est les questions des récits. Donc l'oralité, c'est-à-dire très peu d'écrits, parce que la lecture est complexe, plus laborieuse. Donc travailler sur les récits et quelque chose autour des réflexions de fond, en effet, sur les concepts, et par le biais d'atelier philo. Et ça fonctionne avec les petits, donc je pense que nous, on a des choses à apprendre.
Et puis, sans vouloir réformer tous les programmes, mais la philo, à partir du lycée, en terminale, je crois.
Oui, c'est ça.
c'est tard.
Ça peut être abordé chez les grands ados.
Mais j'avais vu, moi, des choses très, très intéressantes sur des programmes qui étaient tirés dans un groupe scolaire qui rentrait dans les faits religieux par des thèmes sur toute l'année, par une approche philosophique, des thèmes transverses sur la question de la lumière, sur la question du sens, sur la question de l'autre, sur la question...
Et un des enseignants dont j'ai observé longuement la pratique et dont je fais une monographie dans ma thèse était avec une classe double niveau CP-CE1 et a utilisé les récits de création pour apprendre des choses aux enfants, disons, et ensuite les débats philo. La discussion philo, et c'était génial. Absolument génial. Donc, je suis pour.
Pour repositionner les choses, en fait, aujourd'hui, ce sont donc les enseignants ou les éducateurs au sens large qui viennent vers vous. C'est ça ?
Ou, non, c'est plutôt les institutions. Tu as à la fois des personnes qui nous appellent en disant, je prends l'exemple d'une enseignante du 20e là, qui nous a appelé en disant, j'ai entendu parler de vous, là j'ai un truc dans ma classe, j'ai entendu quelque chose, j'ai pas su comment, on m'a dit que c'était bien ce que vous faites, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a la ville d'Évry, là par exemple, qui est venue nous chercher il n'y a pas très longtemps, parce qu'ils avaient entendu parler de ce qu'on faisait et qu'ils réfléchissent à un plan laïcité lié à l'enseignement des faits religieux au niveau de la ville sur les plus jeunes.
Mais c'est... avec la ville, en dehors de mon scolaire à ce moment-là.
Parce que je leur ai dit, si on veut faire quelque chose d'intelligent, il faut faut travailler avec l'éducation nationale, donc il faut qu'ils ne travaillent pas avec les inspecteurs de circonscription, c'est pas sûr que ça marche, mais en tout cas, il faut essayer et faire sur les deux pans. Donc on va avoir des acteurs qui viennent nous chercher différents, individuels ou institutions. Mais non, on n'a pas été contacté par le ministère de l'Éducation nationale.
Bizarre.
Qui va nous dire, on va absolument que vous fassiez quelque chose. Ou du coup, on les harcèle. Dans l'autre sens. En tout cas, on les entoure, on grappille, on essaye d'avancer pas à pas, en entourant, en essayant côté exécutif, côté législatif, du lobbying politique classique, quoi. De se dire, il faut qu'on donne à voir.
Et tu vois, vous voyez une évolution du regard de l'éducation nationale sur ce que vous faites depuis 9 ans ou pas, ou plutôt pour dire
Moi,
il y a des choses qui se déplacent.
J'ai surtout compris que l'éducation nationale, ça ne voulait pas dire grand-chose en fait.
C'est-à-dire
qu'il y a
non,
des
non,
gens...
Non, je râle pas, je disais que mon voisin avait une bonne question. Je me pose à moi, mais...
en fait, il y a des gens au sein de l'éducation nationale. C'est-à-dire que vous avez des endroits où les gens ne veulent pas de nous.
Ouais.
Et estiment que ce qu'on fait est pas bien. Il y a des gens qui trouvent qu'on fait bien. Donc,
ça, la photo était claire dès le début ou...
Non, moi je connaissais pas. J'ai mis du temps à comprendre comment c'était organisé.
D'accord.
Après, t'as des pouvoirs politiques qui sont plus ou moins bienveillants sur notre approche.
Ouais.
On avait une relation plus ouverte, enfin en tout cas une porte ouverte, c'est pas non plus, on y allait tous les jours, hein. Une porte ouverte plus ouverte avec l'ancien ministre.
Oui.
C'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Après, on a un président qui est très ouvert à ces questions, et qui, à mon avis, prêt à entendre. Il a dans la campagne, nous on est très contents, mais c'est là où on se dit qu'on est des débutants. Pendant la campagne présidentielle, il avait pris parti pour l'enseignement des faits religieux. Et c'est bon, et puis.
Sauf que.
Ça prend un peu plus de temps.
Sur ce sujet, pour rebondir sur la question de Xavier, alors, déjà, je trouve ça absolument remarquable ce que vous faites là. Vous éduquez les enfants à la liberté, je pense que c'est l'objectif de l'éducation. Personnellement, j'adhère totalement. Ma question, c'est, est-ce que vous présentez votre cible comme étant celle des enfants ? Est-ce qu'en fait, cette cible n'est pas une cible indirecte et que la première cible, ce ne serait pas justement les enseignants et au-delà des enseignants, tous ceux qui ont une mission éducatrice ? Vous l'avez un peu évoqué en citant les différents mouvements de jeunesse, qu'ils soient institutionnels ou pas. Est-ce que ce n'est pas là, finalement, le vrai levier
Si, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que notre cible finale, c'est les enfants. Après, notre cible moyen, on va dire, c'est celle des éducateurs. On s'adresse encore un petit peu aux enfants, mais ça devient marginal dans notre activité. Mais pour des raisons de changement de système, c'est-à-dire que si on veut que ça prenne, encore une fois, on multiplie par 10 notre activité, c'est-à-dire qu'on n'avait pas 115, mais 150 animateurs, 150 animateurs qui voient 10 gamins par semaine, vous faites le compte, on est très, il y a 800 000 enfants par classe d'âge. Donc oui, notre cible, ceux à qui on s'adresse aujourd'hui, ce sont les éducateurs. Et si on a à choisir, on s'adresse à des éducateurs au sens global. Si on avait à choisir aujourd'hui, on se concentrerait sur les enseignants, les professeurs des écoles.
Et alors en fait, la question conséquente, c'est est-ce que vous trouvez finalement la même méconnaissance ou la même appréhension que dans la cible, enfin, appréhension peut-être pas, parce que justement, chez les enfants, il n'y en a pas, mais la même méconnaissance que chez les enfants. C'est-à-dire que les quelques décennies d'absence d'enseignement ou de prise en compte du fait religieux a conduit à une génération ou deux qui le méconnaît complètement ou qui est complètement pervertie finalement par ce qu'elle a pu entendre. Et quel est votre avis? Est-ce que c'est un champ un peu vierge et, qui est très ouvert ou qui peut apprécier ou qui viendra récupérer ce que vous apportez, ou au contraire il faut d'abord déraciner les a priori?
C'est-à-dire qu'on a peu de recul sur le... Ça fait 9 ans, hein, donc je pourrais pas vous dire s'il y aura pas de différence entre ce qu'on a vu il y a 9 ans et aujourd'hui. On a... Pas de changement de génération. Ouais. En revanche, oui, moi je dirais, mais après je suis assez d'accord, à l'aune de la population globale, c'est-à-dire avec globalement une certaine méconnaissance, sauf quand vous avez des familles d'une religion particulière sur sa propre religion, et encore avec une vision ouais. Celle de ce qui est transmis par sa famille. La question des médias, enfin de ce qu'on entend dans les médias, quand même sur l'autre, celui qu'on ne connaît pas globalement. Et après, est-ce qu'il y a des stéréotypes Oui. Enfin, à l'aune de la population existante.
En tout cas, c'est plus facile de déconstruire les stéréotypes qu'on peut trouver chez les enfants, mais aussi chez les adultes, avec les enfants. Mmh. Et après, je dirais que la différence chez les adultes, et puis après, il faudrait affiner, mais c'est aussi qu'il y a une différence entre la méconnaissance et le refus de l'idée qu'il puisse y avoir une connaissance sur ces sujets. C'est pas, moi, je trouve que le problème n'est pas tant la méconnaissance en elle-même que... certains adultes et en position éducative qui continuent de penser que c'est pas possible de disposer de connaissances sur ces sujets et que ce seront pas des connaissances. Et ça, pour le coup, il y a des différences dans les... Enfin, globalement, disons que les jeunes profs, indépendamment de leurs propres convictions, s'ils en ont une, s'ils en ont pas, etc., sont en demande de formation et d'outils sur ces sujets parce qu'ils savent que leurs élèves vont leur poser des questions.
Et ça, c'est une ouverture chez les jeunes.
Oui.
Il y a moins cette croyance à déconstruire.
Ouais. Comme j'ai la parole, je la garde, j'ai une dernière question. Est-ce que pour vous, la matière est plus facile quand c'est déjà des gens croyants, chez les religieux, ou pas?
Vous parlez des enfants ou des adultes?
Et bien, les deux.
Et les enseignants, pas les éducateurs.
Est-ce que la religion, en fait, finalement, vient réduire cette capacité à...
Ouais, je peux faire une première partie de réponse sur le sondage de 345 enseignants, donc c'est quand même un petit échantillon. Dans les premières questions, il y avait déjà « êtes-vous favorable ou non à l'enseignement des faits religieux ?» avant la question de le mettre en œuvre, évidemment. Et je me souviens plus des chiffres, hein, mais en gros, les professeurs qui sont favorables à l'enseignement des faits religieux sont majoritairement plus ceux qui se disent croyants. Et qui distinguent très bien, hein, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils confondent enseignement religieux et enseignement des faits religieux, mais il y a une forme quand même de familiarité avec le fait même d'être croyant, de se dire croyant, qui fait que, oui, ils sont plus à l'aise avec, plus favorables à l'enseignement des faits religieux. Et après, chez les petits... Je dirais pas avec si quand même chez les enfants qui sont par exemple qui disent ah oui moi je suis élevée dans l'athéisme et comme ça au début il y a un peu une forme de mais de quoi on parle, ah bon mais c'est possible, alors qu'il y a une familiarité pareil chez les enfants qui même s'ils sont élevés dans des religions différentes, le fait de croire, ils ont ça en commun, alors que bon il y a voilà au début un truc un peu différent entre athée et mais ça passe très très vite,
mais surtout t'as un peu d'enfants se déclare athée.
Oui, souvent d'ailleurs, ils disent mes parents. Ça arrive quand même des enfants.
Oui, non, je dis pas que ça n'arrive pas, je dis juste que c'est quand même, s'il y a peu de. On a peu d'enfants qui vont arriver comme un enfant.
Oui.
Des enfants croyants qui vont dire nous, chez moi, on croit, qui vont dire chez moi, on est. Ça m'est arrivé, hein, ça nous est arrivé à Trappes, mais ils sont quand même pas très nombreux ceux qui sont élevés dans une famille qui va leur transmettre quelque chose autour d'un athéisme convaincu.
Mais bon, globalement, les enfants, ils aiment bien en parler, peu importe.
Ça les passionne, quoi. Enfin, c'est un sujet vraiment qui les intéresse beaucoup parce qu'ils ils sentent bien qu'il y a quand même quelque chose à la fois de l'ordre du social à ces vies, des questions socialement vives, qu'il y a une question, il y a des questions de métaphysique quand même pas très loin, ils en ont bien conscience et ça les passionne. Il y a quand même plein de trucs un peu bizarres qui se font au nom des religions et quand même ils sont perplexes, hein. Ils voient plein de choses et donc ils ont envie d'en parler, enfin, vraiment ça. Et puis alors, sans compter que vous êtes quand même aussi potentiellement dans des récits qui sont des récits qui les intéressent beaucoup. sur les personnages, enfin c'est...
Oui, non, mais peut-être plus une remarque, c'est, est-ce qu'il n'y a pas, je ne vais pas parler de contradiction, mais en tout cas une difficulté à devoir traiter de la laïcité et du fait religieux en même temps. L'un relève du champ normatif de la laïcité, et l'autre c'est du champ culturel. Est-ce que quelque part on ne relativise pas la norme en la rapprochant d'une culture, de choses qui sont tout à fait relatives?
Moi je vous répondrai en deux temps, c'est-à-dire que... On a rencontré des enseignants qui éduquent à la laïcité sans passer par l'enseignement des faits religieux. Je trouve qu'à un moment, quand même, c'est particulièrement efficient. C'est-à-dire que quand vous essayez de parler de laïcité en tournant autour du pot de ce que ça traite et sans rentrer dans ce qui en fait le cœur, alors il y a le champ juridique, mais ça traite quand même des convictions des uns et des autres qui ne croient pas la même chose, qui font des trucs différents. Et tant que vous ne rentrez pas là-dedans, à un moment ou à un autre, on a un peu l'impression qu'on tourne autour de la chose sans rentrer dans le cœur du recteur.
Parce que justement, c'est pas ça le problème, c'est que d'un seul coup, on va parler de la pratique du petit Mohamed qui va pas manger de porc, et donc du coup, ça devient un sujet de débat, et alors que la vérité, c'est qu'on devrait lui dire, ça relève à la vérité de ta vie privée, t'as pas à l'exprimer, si tu manges pas de porc, tu dis rien à personne et t'en manges pas. Mais tu n'as pas à l'exprimer, tu n'as pas à en parler à tes camarades.
Parce pourquoi que dès qu'on en parle, pourquoi bah, tu n'as pas? Bah, dans quel sens? Est-ce que c'est dans le sens?
On sort de la laïcité. Et donc, on arrive évidemment sur la notion même de prosélytisme. C'est la question du port.
Mais alors, je ne suis pas sûre de comprendre en quoi on sort de la laïcité quand un petit à l'école va dire moi, dans ma religion, je ne mange pas de porc et donc moi, je ne mange pas de porc.
Parce que, du coup, ça, il présente ça comme une règle qui est tout à fait relative.
Bah, nous, ce qu'on lui apprend à faire, c'est pas à dire ma religion interdit, non. C'est moi, j'interprète mes textes comme ça.
Il y a quelque chose quand même de l'ordre de la laïcité scolaire où, certes, il y a la loi de 2004. Certes, le prosélytisme n'a pas lieu d'être. En revanche, rien n'interdit aux enfants de parler de leur conviction. C'est ce qu'on dit aussi aux enseignants. Et autant vous n'avez pas à dire en tant qu'enseignant ce que vous croyez ou que vous ne croyez pas. Autant les enfants dans l'enseignement des faits religieux vont vous dire, moi je crois, moi. Et ce n'est pas anti-laïque. La question de la laïcité, là où, si je reviens sur votre exemple, là où à mon avis ça fait sens, c'est qu'il y a un moment ou un autre, quand il va pouvoir dire ça, de pouvoir lui dire, la laïcité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as le droit de faire ça? Est-ce que tu peux l'imposer à ton voisin? En fait, quand vous rentrez là-dedans de cette question des pratiques, de ce à quoi je crois, ce à quoi ça renvoie, le fait que j'ai le droit de le faire, pour autant que j'ai pas le droit, qu'on n'a pas le droit de me l'imposer ou j'ai pas le droit de l'imposer aux autres, vous rentrez. C'est là que je vous dis que vous rentrez dans le cœur du recteur. C'est-à-dire que transformer cette affirmation-là en quelque chose où vous le reliez à ce que ça, le cadre qui le garantit cette possibilité et qui garantit la liberté des autres, elle prend sens. Parce que les enfants, si vous leur expliquez la liberté de conscience et la liberté de culte, ils comprennent. Hein. Ils comprennent, sauf qu'en fait, ils vont comprendre rationnellement sans que ce soit nécessairement intégré à quelque chose de mise en pratique. Et c'est là où on dit on peut enseigner la laïcité sans passer par là, mais quand vous passez par là, il y a un moment où c'est plus concret, c'est plus tangible, c'est plus relié à un quotidien, ça fait sens, et ça fait sens pour chacun d'entre eux, quelque conviction que ce soit.
François, Dimitri. Oui, donc, on a beaucoup parlé de l'école. Mais à des moments où vous avez parlé d'autres structures dont vous êtes rapproché pour attaquer cette question. Dans les autres structures, quand vous intervenez, est-ce que vous avez des outils différents? Est-ce que vous abordez les choses de manière un peu différente? Je parle du football, par exemple. Ouais.
Les objectifs vont être les mêmes, ouais. Les thèmes abordés vont être les mêmes, ouais. Après, c'est les jeux qui vont être différents. D'accord. Si je prends, par exemple, si je reste sur la cible des enfants, vous avez l'arbre à défi, par exemple, qui est assez scolaire, sur des formats scolaires, avec des traces écrites, le travail de la langue. Quand on va être en périscolaire, on va avoir des jeux qui seront plus des jeux qui vous disent quelque chose, des jeux de tabou, de mémoire, de quiz, de... Mais finalement, on va rester sur des thèmes qui sont similaires et avec une pédagogie qui va être la même. Ouais.
D'accord, la pédagogie qui est la même.
Ouais. Pédagogie, on joue et vous allez systématiquement poser des questions aux enfants sur ce qu'ils en disent.
Et quand vous parlez d'une commune comme ça, Trouville, mais n'importe laquelle, peu importe, quand on fait appel à vous, on fait appel à vous uniquement pour l'école, ou bien aussi dans un cadre extrascolaire?
C'est variable. Strap, quand on y est arrivé, c'est le délégué du gouvernement qui est venu nous chercher, qui ne savait pas si on rentrerait par la mairie ou par l'école. On est rentré rentrer finalement par l'école.
Vous voulez parler du délégué du préfet?
Non, délégué du gouvernement, c'est il y a quelques... Mais parce qu'en fait, une fonction, il y en a très peu en France. Il y en avait un à Grigny, il y en avait un à Trappes, qui avait pour mission sur un temps donné de mobiliser les différents acteurs sur les questions éducatives pour coordonner.
Éducative uniquement, c'était pas la politique de la ville en général.
C'est en lien avec la politique de la ville, mais sur les questions éducatives. Ah ouais. Et en fait, on est rentré par l'école. Il y a des villes où l'école et la ville ne travaillent pas ensemble. Presque, on essaie de dire, quand Evry est venu nous chercher là, on leur a dit, mais si on veut faire quelque chose de pertinent, il y a un moment ou un autre où il faut travailler avec l'école. Même pour vous, en dehors d'enquête, hein, c'est votre plan sur les questions de laïcité, il faut que ça soit travaillé dans les différents temps de l'enfant, parce que sinon... C'est dommage, mais... Donc c'est très variable.
D'accord.
Moi je voulais vous poser une question plutôt sur les mots. J'ai été surprise, même un peu choquée, de voir la dernière, les trois colonnes, là. Mm-hmm. Et la troisième colonne, c'est la colonne conviction, mm-hmm. et on met dedans juif, chrétien, etc. Est-ce que c'est vraiment un mot de la laïcité, ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas... Enfin, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous n'avez pas voulu mettre le mot religion? Parce que ce qu'on met derrière, ce n'est pas des convictions, c'est une religion. Et j'allais vous poser une autre question, mais je pense que c'est plus de l'ordre d'une erreur. C'est que je voyais dans ce livre-là que vous écriviez Dieu avec une minuscule. Mais en fait, il y a des endroits où c'est avec une minuscule et d'autres avec une majuscule. Donc là, je pense que ce n'est pas un choix, c'est plus une erreur.
En l'occurrence, dans le guide, c'était un choix, mais qui s'est avéré être une erreur après coup. Et donc, du coup, Mais c'était l'idée de faire un travail de différenciation entre Dieu quand il est appelé par les croyants et donc c'est une personne, disons, donc il a une majuscule. Et Dieu, un dieu, le nom.
Un nom commun, quoi.
Voilà, c'est pas...
Parce que fils de Dieu avec un petit D, j'avais oui, jamais vu, donc mais je en fait, c'était un mot de la laïcité.
Non, non, mais en fait, ça, on va le remodifier dans la prochaine version. Et sur le mot conviction, compliqué, même dans tous nos textes, on passe notre temps à dire religion et conviction athée et agnostique, c'est un peu long à mettre dans une colonne. Concrètement, on a mis conviction là dans la colonne, dans le tableau, pour qu'on puisse faire rentrer athéisme dedans. Et parce que si vous mettez religion et athée dedans, ça marche pas. Ça marche pas, ou en tout cas, certains, ça pourrait marcher aussi si on simplifie, mais certains athées, ou enfants par exemple, ils grandiraient dans une éducation athée, ils diraient non, moi je suis pas une religion, j'ai pas une religion, puisque je ne crois pas qu'il y a un Dieu.
Mais est-ce qu'ils sont à un âge où ils ont véritablement une conviction? Moi je pense qu'à leur âge, c'est plus de l'ordre de la culture.
Et de leur famille.
Pardon ?
Leur famille.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas à leur âge, on ne peut pas dire que c'est une conviction, ça l'est plus tard et encore.
Alors, ça, c'est difficile à dire parce que les enfants aient quand même une conscience, moi je pense que c'est le cas. Après, qu'elle soit moins construite qu'un adulte, oui. Mais bon, tout le travail aussi de cet enseignement, c'est d'éduquer à la liberté de conscience. Donc, il faut bien qu'ils exercent leur conscience.
Ce que je remarque, c'est que vous posez énormément les termes, en fait.
Et justement, j'ai une question avec ça. Est-ce que quelqu'un valide vos jeux?
C'est l'HEMR qui valide.
Parce que par exemple, dans un programme scolaire, les livres d'histoire géo, ils sont validés
par un conseil
des programmes. Et c'est d'ailleurs suffisamment compliqué d'ailleurs de les valider. Donc là, est-ce que vous avez... Parce que finalement...
Alors, l'éducation nationale nous dit régulièrement qu'on bénéficie de l'agrément, mais c'est l'association qui bénéficie de l'agrément, et pas les outils, et que justement l'éducation nationale, dans sa doctrine de non-ingérence entre secteur privé, secteur public,
liberté pédagogique,
qu'il n'y a pas de labellisation des outils de la part de l'éducation nationale.
Et notamment des manuels non plus. Les manuels, ils ont un comité scientifique. Manuels scolaires qui sont édités par les éditeurs, ils vont suivre un programme, ils peuvent avoir un comité scientifique, mais ils ne sont pas validés.
Ils ne sont pas validés, il n'y a pas par l'école.
Non, nous, on s'est adjoint un comité scientifique en faisant relire nos. L'arbre à défi avait été. Mais il y a encore des erreurs qu'on va reprendre. Mais avait été relu par l'IESR, Institut européen en sciences des religions. Donc la structure, c'est une école pratique des hautes études. Et après, au sein de notre équipe, il se trouve que je suis la seule par chercheuse. C'est-à-dire que Lola donc, est docteur, Anaëlle est docteur en sciences des religions. Aussi, Tassim est chercheuse sur des questions M2 aussi, recherche. Donc on a un lien avec l'université par ce biais-là. Et puis après, on essaye, chaque fois qu'on se pose des questions, parce qu'elles passent leur temps à se poser des questions, moi je tranche un peu plus, mais aller rechercher, et du coup aller essayer de poser des questions à des spécialistes. Alors toujours au sein de l'université, sur la validation et pas auprès d'acteurs religieux. Pourquoi en termes de positionnement, en fait, en France, c'est très compliqué de traiter des faits religieux si vous ne montrez pas patte blanche en permanence sur
une distance
par rapport à religieux. Donc pas de lien avec les instances, les églises ou les cultes, pas de relecture au...
Oui, moi je pensais plutôt à une relecture de l'éducation nationale.
Alors on a eu plusieurs rendez-vous autour de nos outils, mais où même les personnes qu'on a rencontrées d'éducation nationale nous disaient voilà, attention, moi je ne labellise pas un outil, vous avez un agrément, nous on n'est pas là pour labelliser un outil, donc où en fait on n'a pas eu de retour très en détail sur nos outils, alors qu'on était demandeur de ça, mais... Ça, non.
Mais vous pourriez avoir par exemple des inspections d'inspecteurs qui viendraient assister à vos.
Mais ils ne sont pas compétents. Ah non.
Ouais. Ah, ils ne sont pas compétents.
Ils ne sont pas compétents, mais ils peuvent donner un avis sur l'enseignement si vous donnez.
Non,
je ne suis pas d'accord. Là, c'est une
le polygone dans l'éducation nationale.
Un inspecteur pourrait, à bon droit, venir.
Ah, mais quand on travaille.
Je pense que le jour où ça arrivera, pour nous, ce sera une victoire. Qu'un inspecteur se dise ah, tiens, je vais labelliser cet outil et faire des remarques.
Non, mais sans labelliser, il vient, comme il inspecte n'importe quel enseignant.
Quand on travaille sur les circonscriptions, on le fait avec les inspections, avec les inspecteurs, de toute façon. Oui. Parce que...
Là, ce que vous avez vu dans la classe, évidemment, l'enseignant avait demandé l'autorisation de son inspecteur, voilà, qui avait regardé, qui par ailleurs n'a pas demandé à venir particulièrement. Oui.
Mais même nous, on a un enjeu. Si je reprends toujours mon trap muro à Sartreville, si on veut que ça se déploie, il faut que les inspecteurs soient... Donc nous, on vient les chercher pour leur demander, venez, mettez un conseiller pédagogique sur le suivi du projet. Et quand on a un conseiller pédagogique qui est impliqué, qui vient voir, qui comprend comment ça marche mieux. Donc au contraire, on aurait tout intérêt, c'est pas une question de...
Et moi, je veux bien juste revenir sur votre question, du coup, pour répondre un peu plus dans le détail sur la validation. Il y a une autre difficulté à laquelle on fait face, un enjeu, c'est de faire travailler des universitaires. Donc on a un comité scientifique avec des universitaires, Philippe Portier par exemple, pour vous dire quelqu'un que vous avez vu, mais voilà, avec des gens soit spécialistes de la laïcité, soit spécialistes des religions, enfin, ou d'une religion, soit spécialistes de questions de pédagogie. Mais concrètement, c'est des gens non seulement qui, dans le comité scientifique, connaissent notre travail, nos actions, mais ne peuvent pas prendre le temps de lire tous nos outils dans le détail. Et par ailleurs, ça c'est une difficulté, même si c'est génial de travailler avec des universitaires, mais des universitaires qui mènent une carrière universitaire, ils ont une exigence de complexité qui ne colle pas avec notre travail de simplification. Tout notre travail, c'est de dire, ok, on va simplifier les connaissances universitaires complexes, et simplifier, c'est trahir, mais en même temps, il faut bien commencer par simplifier pour pouvoir complexifier après. Donc du coup, on le fait, mais on le fait avec la marge de manœuvre qu'on a, quoi. C'est-à-dire de dire, oui, est-ce que, par exemple, là, le guide pédagogique qui va avec l'arbre à défi, il a été relu, l'introduction a été relue et validée par des universitaires, mais ils ne pouvaient pas se pencher sur chaque séquence et lire, parce que c'est pas non plus...
Parce que finalement, le fait religieux, aujourd'hui, à l'école, il est enseigné à travers l'histoire. C'est-à-dire que les enfants, moi je vois mes enfants... comment ils vont apprendre des choses sur l'islam, sur le catholicisme, le protestantisme, c'est par le biais de l'histoire. Et il y a quand même des pages et des pages dans les livres d'histoire.
Tout à fait.
Sur le sujet, mais c'est abordé sur c'est pas seulement historique, parce que
c'est problématique dans certains milieux.
Il y a des formations spécifiques.
Il y a des trucs
là vous n'intervenez pas, parce que vous, c'est votre spécialité, donc vous intervenez. Mais le prof d'histoire est confronté à cet enseignement, il a une formation spécifique?
Non. Ça dépend. Le prof d'histoire, il a j'ai une formation d'historienne au départ, j'ai fait la fac en histoire. Il se trouve que dans les choix de cours que j'ai fait, j'ai choisi des cours Bible et Orient, Islam et politique, mais on peut faire son parcours d'historien à la fac en choisissant plein d'autres choses.
Oui, mais l'enseignement, c'est un peu particulier, parce que de fait, vous avez accumulé l'expérience, le contact avec les enfants, des malentendus.
Alors oui, si, pardon. Les profs d'histoire, ils vont...
Notamment les exemples que vous avez évoqués sont quand même assez édifiants. On se dit, mais c'est pas possible, comment un prof peut sortir des âneries pareilles en cours?
Ouais, mais c'est pas,
se pose la question quand même de leur formation.
Oui, mais c'est un problème de culture professionnelle plus générale. Là, les professeurs des écoles ne sont pas des historiens. Enfin, même celui qui enseigne l'histoire, il n'a pas un parcours de formation initiale en historien. Donc, maîtriser la subtilité des termes, etc., c'est compliqué.
Donc, si tu demandais à un prof de maths, il est spécialiste en algèbre ou en anglais.
Non, et après, ça va être...
les instituteurs, autrefois, nous
mais du coup,
alors qu'ils étaient incapables de penser.
Par ailleurs, au-delà de nos sujets, nous, à proprement parler, il semblerait, mais ça, peut-être, vous allez être mieux placé que nous pour le savoir, mais qu'il y a un déficit de formation à la neutralité, de manière générale, pas seulement sur le religieux, envers les agents de la fonction publique.
Je sais pas ce qu'elle est. Dans une entreprise où j'ai un bordel énorme, parce que en fait, il y a une cafette avec un musulman qui tient une cafette et il a jamais parlé de religion de sa vie, ce pauvre monsieur. Et il a mis deux micro-ondes. Et je vous assure, c'est un groupe en France qui a 28 000 salariés. Donc c'est pas une petite entreprise. Et je suis appelée pour régler un problème de micro-ondes dans cette cafette au siège social, mais c'est pas une blague, hein, c'est une réalité concrète de cette cafette où ce monsieur a mis deux micro-ondes et où les gens qui mangent à l'âle
dans un micro-ondes
se servent de ce micro-ondes sans consommer, enfin sans acheter dans cette cafétéria, et les consommateurs de la cafette ont fait des tracts dans la société pour arrêter l'usage du micro-ondes contre les personnes qui veulent manger halal et qui ne sont pas consommateurs de Mohamed qui tient sa cafette et qui n'a jamais parlé de religion. Et c'est devenu un problème majeur que la DRH ne peut pas régler, que le DG, dont le DG France s'est emparé en disant « trouvez-nous une solution ». Les micro-ondes.
Mais c'est là,
quand je dis que c'est partout, c'est un déficit.
Oui,
de l'observateur de la laïcité, t'es mal.
C'est quand même extraordinaire. Bah, comme, et c'est pas. Mais c'est là. Les salariés qui sont des, en majorité des ingénieurs.
Oui, mais c'est là où on retombe sur la question
de
la
personne.
Les adultes qui sont pas du tout, qui n'ont aucune maîtrise du sujet, ils peuvent faire des choses aberrantes, alors que si on commence avec les petits,
la réflexion qu'on se faisait avec Alexis tout à l'heure quand on parlait là, c'est que là, par exemple, dans notre promotion, il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas de gens d'éducation nationale. Est-ce que à l'IHEMR, vous en avez eu? Finalement, on a beaucoup de profils différents, mais on n'a pas de... Alors qu'il devrait y en avoir.
Est-ce qu'il y en a eu à l'IHEMR?
Non, jamais. Il n'y a jamais eu un...
Une responsable pastorale,
oui, madame. Oui, c'est responsable. Non, mais l'éducation nationale... alors il y a eu une prof de quelqu'un du CNRS.
Mais c'est
tout. Voilà. Et donc, moi, c'est une porte que je à laquelle je toque régulièrement, tous les ans. Je ne suis peut-être pas idiot comme nous en voyons, etc. Est-ce que vous avez pensé à envoyer des inspecteurs, par exemple?
Et l'accueil, pardon, donc, c'est peut-être très indiscret, mais l'accueil qu'on t'en fait sur...
Bon, c'est poli, quoi. Poli, et disons que c'est le seul ministère où j'ai un peu l'impression que... Ouais, que tu dérange. Voilà, alors que ça devrait être un ministère
alors
qui...
C'est comme vous,
normalement. Donc, par exemple, là, j'attends un rendez-vous avec le conseiller de Blanquer ou le DRH, je sais pas, ça fait 3 mois. On m'a dit que ça tournait entre les conseillers, qu'on ne savait pas qui allait traiter là-dedans. Ce qui veut dire en clair que je les envie. Bien sûr, ils n'ont pas envie de traiter. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Marine, avec Najat Belkacem, c'était beaucoup plus ouvert. Enfin, c'était plus facile.
Mais comme on est des foncières optimistes, on se dit que ça va y arriver, nous. Déjà, on est une asso qui continue à vivre, qui fonctionne majoritairement avec subventions publiques. Parce qu'on a 25% de ressources propres, mais c'est 75% de subventions. Dans un paysage où les subventions disparaissent, et on, on n'a pas de problème de sous, donc ça veut bien dire qu'on répond à une demande quelque part, quoi. Donc,
ouais, et puis enfin, c'est absolument nécessaire, de toute façon.
Et puis il y a personne qui s'occupe des enfants, enfin, c'est ça qui est fou. Enfin, j'ai sans doute pas vu tous les acteurs, donc il y a sans doute des acteurs locaux qui... Mais quelqu'un qui aurait une place au niveau national sur ces questions-là, il n'y a pas.
Et vous travaillez avec des écoles, par exemple, privées, catholiques,
On avait, oui, avec certaines congrégations ou écoles qui viennent nous chercher pour des formations et la création d'outils. On avait été en lien avec le secrétariat général de l'enseignement catholique qui nous avait demandé de penser un plan de formation pour tous les enseignants et professeurs des écoles. Donc un truc un peu ambitieux. Et en fait, ils ont mené une étude auprès de leur... avec l'ICP, l'Institut catholique de Paris, sur cette question de l'enseignement religieux, pour se rendre compte que c'était un peu compliqué et qu'ils n'allaient peut-être pas initier un truc tout de suite.
Qu'eux-mêmes, ils voulaient se mettre au clair sur comment différencier la vocation pastorale de l'enseignement et l'enseignement des faits religieux qui est au sein des programmes. Et comment faire pour demander à l'enseignant... Enfin, voilà. En gros,
il y avait des réticences à certains endroits sur la communauté éducative.
Non, mais il y a... Enfin, moi, je connais bien les Lassaliens. Ils ont fait tout un outil pédagogique qui ressemble au vôtre. Qui est récent. Hein, qui date
mais pour l'année. Et pour les enfants
ou pour pas les, le primaire, pour exactement votre classe.
D'accord.
Et il y a des parents qui pensent parce que justement, ils disent « Ah ben oui, mais c'est plus du catéchisme. » Voilà.
Vous avez une idée,
c'est mal vu, c'est remplacé.
Tu prouves au passage qu'on peut faire un enseignement de faire du jeu sans faire du catéchisme.
Et les enseignants, alors du coup, comme c'était des parents qui faisaient le catéchisme, ils veulent virer les parents pour donner cette fonction aux enseignants.
D'accord.
Il y a cet outil qui ressemble au
nom. Et est-ce qu'il a un nom? Je vous souvenais ou pas de l'outil?
Ça s'appelle les mercredis lassaliens.
Ok.
Mais parce qu'il y a plein d'endroits en fait, une problématique en fait où ils confondent, où l'enseignement des faits religieux est souvent confié à la pastorale et donc il y a une espèce de gloubi-boulga là.
Oui, voilà, donc en fait il y a une espèce de truc.
Ouais.
Et avec des APS qui du coup sont très mal à l'aise.
APS.
Pardon, des adjoints en pastoral. Qui sont en charge de cet accompagnement de foi, en fait, qui sont très mal à l'aise parce qu'ils... Enseignement des
faits religieux. Les APS sont des enseignants ?
Non. Ils sont salariés des établissements pour accompagner sur les questions spirituelles de foi et autres. Et généralement, l'enseignement des faits religieux leur est confié. C'est-à-dire, nous, il y a plein de gens qui nous achètent la bras des filles et c'est souvent les fameuses APS qui les achètent. Et on se dit, il y a un truc, là, c'est quand même pas tout à fait clair. On en voit, mais...
Pour compléter la photo, il y a également un gros programme qui a été développé par les collèges de Bernard Vin, pour la formation des profs privés.
Oui, Agapan.
Je ne sais pas si ça doit venir. En tout cas, ça a eu quelques années. Ça. C'est plus une formation sur le... Oui,
sur le fond.
Sur le fond, sur les religions.
Mais moins sur les pédagogies. Enfin, nous, on est beaucoup sur la question de la pédagogie, plus que sur les
parapsychologues. Ouais.
Et vous êtes actuellement les seuls en tant qu'association à occuper ce créneau
sur l'enseignement des faits religieux chez les petits, à mon sens, oui.
Quelques prétentions.
On a croisé quelques acteurs qui, à titre individuel, proposaient des choses.
Donc la seule école confessionnelle ou la seule confession qui ait fait appel à vous, c'est les catholiques ou les chrétiens?
Non, on est aussi intervenu ponctuellement auprès de l'AIU, l'Alliance israélite universelle, qui gère certains...
Il n'y a pas des pasteurs allemands qui
sont plus? Si, ça, j'aurais présenté, mais après, c'est quand même la majorité, 20% des écoles sous contrat, c'est une grande majorité. Donc, école juive, après le jeu, je l'avais testé dans une école musulmane, mais il y en avait cinq à l'époque. Qu'il y en a cinq aujourd'hui d'école musulmane. Donc, et en revanche, on n'est jamais intervenu, me semble-t-il, dans du sous-contrat non confessionnel. Mais c'est marginal aussi, en termes de Montessori et autres.
Oui, c'est pas
le bon. Donc,
sous-contrat,
mais on le dire, parce que ce qui est fait.
Ah, on n'est pas contre.
Dans le hors contrat, je les hommes et dans les
professionnels. Après, comme on a déjà beaucoup de travail de patte blanche auprès de l'éducation nationale, et que nous, c'est là qu'on veut intervenir le plus, si on met toute notre énergie sur. Il y a un travail à faire.
Non, mais il y a quand même quelque chose, moi, qui me tiendrait à cœur, qui est. Comme vous l'aurez compris, on est plutôt envoyé à Trappe au bureau qu'ici, par exemple, dans l'herbe d'école publique. Si on arrivait à avoir des ateliers ou à former des profs, à l'école alsacienne, moi je serais ravie, quoi, par exemple, pour montrer que c'est pas juste une question de si je mets le pied dans le plat d'islam de quartier. Et... Oui, mais je pense que la question elle se pose aussi à d'autres endroits.
Je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que ça serait. Il y aura un effet de balancier,
Non, et puis avec un truc qui potentiellement peut aussi se retourner contre l'action, c'est-à-dire de dire ah ouais, c'est encore un enseignement pour les musulmans des quartiers comme votre truc.
Donc ça sera vu comme une rééducation.
Et puis il y a des choses quand même là, des endroits où les enfants ont des problématiques sur l'islam dans des écoles de centre-ville, sur les musulmans, ou sur des enfants de couleur. Ou... Enfin, on le voit à Sartrouville, hein, la question du quand il y a des propos qui rejettent. On les retrouve dans les écoles des quartiers comme dans les écoles de centre-ville.
Mais il y a un grand désintérêt pour la question des écoles. Notamment dans une population qui est potentiellement éduquée, qui en fait considère que c'est
important. Oui, qui n'a pas besoin.
Ça appartient à la sphère privée. Si effectivement c'est sur l'espace public, effectivement c'est une erreur.
On a encore un peu de boulot.
Et donc, combien même vous seriez positionné sur la lutte contre la radicalisation pourquoi est-ce que vous le revendiqueriez
Parce que pour deux points problématiques à mon sens, c'est-à-dire qu'on va contre le fait qu'on dit nous qu'il faut en parler en dehors des moments de crise et autres. On est lié à une question de crise, on fait systématiquement le lien entre religion et radicalisation, du coup, avec un lien sur une religion en particulier, et que, en plus, moi je ne sais pas ce que c'est que la radicalisation chez les enfants, je ne sais pas comment on le ferait bien. En revanche, de faire en sorte qu'on puisse amener les enfants à réfléchir sur ces questions, on sait faire. Mais je vous dis ça, mais en même temps, on est financé majoritairement sur ces
questions. Éducation à l'esprit critique.
C'est IPDR.
C'est IPDR,
le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. On mène le projet d'étude et la modélisation avec eux.
De fait, on le fait, mais on ne l'affiche pas, plus que ça, quoi, parce que pour ne pas être cantonné aussi à.
Non, puisque je disais à l'école, moi j'aimerais aussi qu'on ait des ateliers au Paris 7e, pas uniquement à Trappe, parce que je pense que tous les enfants ont besoin. Parce que la question de la relation à l'autre, elle est partout.
Et puis il y a la limite dans cette question.
Bah là, il n'y a pas de mixité, c'est-à-dire que le but du jour de Paris, c'est vraiment de trouver les chrétiens ou les athées, c'est des cafards. Donc, si je suis désolée, je suis caricaturale. Mais
ils sont verts.
Il y en a un, mais je suis désolée pour les cafards. C'est pas partout.
Et donc, un jour, il n'y aura plus ni enquête, ni HEMR, parce que les gamins seront...
Et ouais, et on sera autre chose. Il y a
les vieux aussi,
il y a jamais.
Donc, les vieux. Non, mais le CRJ devra plus quelque chose d'inconnu, et clairement, ne deviendra plus qu'un objet de recherche pour universitaires.
Exactement. Bon, ben merci infiniment.
Merci beaucoup.
Bravo.